Alors Matthieu a rappelé que pour les habitués, c'est-à-dire ceux qui viennent régulièrement, nous sommes depuis quelques semaines à écouter des messages qui nous parlent de ce que nous sommes, de notre identité. Je crois que ce matin, notre sœur Joyce nous a donné le plus bel exemple de ce qu'elle est aux yeux de Dieu, de son identité, de ce qu'elle veut révéler à tous ceux qui l'entourent, de sa vie avec celui qui, comme elle en a témoigné, a transformé sa vie, son cœur et sa destinée éternelle. Cette question, elle peut être posée à titre collectif, celle que nous posions au cours des dernières semaines, mais à titre individuel. Un baptême, c'est un engagement personnel, rappelez-vous, ce qu'a dit Paul tout à l'heure, sur ta demande. Et notre sœur a voulu rappeler que Jésus était son Seigneur, son Sauveur, le Maître de sa vie. Et rendre ce témoignage tout autour d'elle, à ses amis, ceux qu'elle a invités ce matin, à ceux qu'elle verra tout au long de son existence terrestre. Les textes que nous allons lire ce matin, sur lesquels nous porterons nos regards, nous parlent de Jésus. Alors vous allez me dire, parler de Jésus dans une église, c'est la moindre des choses. C'est celui qui, sans lequel, nous ne serions pas là ce matin. Sur Jésus, sur ce qu'il représente pour nous, mais beaucoup plus loin, pour ce qu'il représente aux yeux de son Père. Et je vous invite à lire deux textes qui feront l'objet, au moins le deuxième de notre méditation, que vous trouverez dans vos Bibles à la page 1093 dans l'Évangile de Matthieu. Nous lirons tout d'abord au chapitre 16, les versets 13 à 17, page 1093. Jésus arriva dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et un deuxième texte à la page suivante, 1094, chapitre 17, dont nous lirons les 8 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus. Seul. Le premier passage que nous avons lu fait intervenir les disciples tout entiers, alors qu'ils se trouvent sur la route de Césarée de Philippe, environ 50 kilomètres au nord du lac de Tibériade. Et là, Jésus qui intervient pour demander à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et vous avez eu les réponses proposées. Ces réponses étaient toutes flatteuses. Jésus était quelqu'un d'important, mais aucune d'elles n'était exacte. Jésus était bien plus qu'un prophète. Qu'en était-il des disciples ? Que pensaient-ils de Jésus, eux qui avaient, depuis près de 3 ans, été tous les jours auprès du Maître, à écouter son enseignement, à voir ses miracles ? Quelle était leur opinion ? Je m'arrête sur ces quelques paroles de Pierre. C'est toujours le premier à répondre. Toujours l'homme empressé, un peu impétueux, parfois même violent. Et il a cette parole magnifique qui devient pour chacun de nous une parole importante. Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de rajouter, tu es heureux. Ce n'est pas toi qui as pu reconnaître cela. C'est mon Père qui te l'a fait connaître, c'est l'Esprit. Pierre n'était pas un homme instruit, c'était un pécheur. Il attendait, comme tout le monde autour de lui, la venue d'un libérateur qui allait transformer la vie de ce peuple d'Israël asservi au joug romain, le libérer. Mais attendait-il vraiment un Seigneur, un Sauveur ? À ma connaissance, pas. Pas encore. Jésus connaît très bien Pierre. Il sait également ce qu'il est. Après ce premier passage que nous avons vu et où Jésus confesse Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu, alors que Jésus va leur parler des événements à venir, de son arrestation, de son jugement, de sa mort, Pierre est là encore le premier à intervenir, à dire « Mais ça ne t'arrivera pas, ça n'est pas possible !» Et Jésus de le reprendre en disant ces paroles terribles, « Arrière de moi, Satan !» Comme si Pierre n'avait rien compris de ce qu'était Jésus. Alors pourquoi cet événement sur lequel nous allons nous arrêter de la transfiguration, et plus particulièrement sur les paroles de Dieu envers son Fils ? Eh bien tout simplement parce que Jésus, en les conduisant vers cette haute montagne, veut leur révéler un peu plus de sa personne, un peu plus de ce qu'il est, un peu plus de sa mission, un peu plus de ce qu'il attend de chacun d'eux. Et c'est probablement pour encourager Pierre et les autres disciples que cet événement va se produire avec toutes les conséquences qui s'en suivront. Je vous invite donc à revoir uniquement les paroles que le Père a prononcées. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait tout mon plaisir, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Ça sera notre premier point. Et le second, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci, pas un autre. Celui que vous avez là, avec vous, Pierre, Jacques, Jean, c'est mon fils. La transfiguration marque donc une étape importante dans la révélation de Jésus comme Messie et comme fils de Dieu. Comme cela nous est rappelé au psaume 2, verset 7. Pourquoi Jésus a-t-il entendu cette parole du Père ? Qu'est-ce que le Père voulait dire en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé » ? Eh bien, tout simplement que Jésus, en tant que fils, était Dieu. Cette filiation, je n'irai pas jusqu'à dire « tel Père, tel fils », elle existe, mais Jésus est Dieu, pleinement Dieu. Il était, dès les temps anciens, en présence du Père. Alors, Jésus a eu beaucoup de noms, de surnoms, d'appellations. Jésus, le Messie, le Christ, le Fils de l'homme. Mais ici, l'expression, elle est beaucoup plus forte. Fils de Dieu. Expression qui exprime, dans le sens le plus profond, la filiation, la relation mystérieuse que nous ne connaissons pas, que nous connaîtrons un jour, relation qui existait dès les temps anciens entre le Père et le Fils. Il ne peut y avoir de plus belle affirmation de la divinité de Jésus que cette parole, Jésus, mon Fils. Il est Dieu lui-même, doué des perfections, infini, innombrable, qui découle de son essence divine, Jean 1, 1 à 14. Et pour authentifier de manière plus grande encore cette réalité, le Père va faire éclater sa gloire. Nous voyons dans ce récit une lumière qui resplendit. Cette lumière resplendissante, on l'a déjà vue lorsque Jésus est né. On a vu encore une manifestation extraordinaire au moment du baptême du Seigneur. Cette nuée, elle ne peut pas, pour chacun de nous qui connaissons un peu les Écritures, ne pas nous rappeler le texte de l'Exode, au cours duquel, à chaque étape de la vie du peuple d'Israël, de son retour vers le pays de Canaan, il y avait cette nuée, cette lumière qui rayonnait et qui manifestait la gloire divine. Et d'ailleurs, lorsque Moïse monta sur la montagne, au moment de recevoir les tables de la loi et les commandements, il nous est dit que lorsqu'il revenait, son visage était resplendissant, il brillait comme la lumière, il avait rencontré Dieu. Là, dans notre texte, Jésus a radicalement changé d'apparence. Sa gloire, parce que dans la nuée, il y avait la gloire qui enveloppait le Seigneur Jésus. Sa gloire a été manifestée. Et chaque fois que sur un homme, tel que l'a été Jésus, la gloire est manifestée, c'est un signe de la divinité, de la marque du sceau de Dieu sur cette personne. Les disciples n'ont pas encore pris conscience de ce qu'était Jésus, de sa divinité. Mais s'ils ne l'ont pas encore compris à ce moment-là, ils vont la comprendre quelque temps plus tard. Je disais, trois fois, au cours de son ministère, Jésus a été accrédité par le Père. La première fois lors de son baptême, Matthieu 3, 13 à 17. Mais ici, il y a une gloire supérieure qui apparaît. Ce n'est pas uniquement par son baptême, par un acte, que sa gloire est manifeste. Elle l'est par la présence même de Dieu. Dieu parle, Dieu se fait entendre. Les disciples ont entendu la voix de Dieu. Ça n'a pas été que Pierre, Jacques et Jean qui étaient en dehors, en deçà. Il n'y a pas que Jésus qui l'a entendu cette voix. Tous ceux qui étaient là l'ont entendu, Pierre, Jacques et Jean. Révélé par Dieu lui-même, qui était Jésus, sa divinité. Cette vision de Jésus glorifié, elle les a profondément marqués, ces trois disciples. Je vous donnerai quelques exemples, deux, à partir de textes qui émanent de l'un et de l'autre. Jean parle de cet événement lorsqu'il écrit dans le prologue de son évangile « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père » Jean 1, 14. Pierre également a réalisé que les souffrances et la mort de Jésus sur la croix seraient suivies d'une manifestation glorieuse de Jésus-même. Dans sa deuxième lettre, il mentionne cette transfiguration et surtout la voix venue du ciel pour donner du poids, du crédit à sa prédication. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. On peut dire que la transfiguration a marqué autant Pierre que Jean. Elle a donné un sens véritable à leur vie après la résurrection du Seigneur et après son ascension. Alors une application personnelle, quel impact la révélation de la gloire de Jésus-Christ et sa divinité qui transparaissent dans ce récit a-t-elle dans notre vie, dans ma vie quotidienne, dans mon témoignage, à chacun de nous de répondre. Mais Dieu ne dit pas seulement « Jésus est mon fils ». Il complète en disant « Jésus est mon fils bien-aimé ». La mission de Jésus en tant que fils était évidente. Il est venu pour nous révéler le Père, son amour, sa compassion, sa sainteté et toutes les qualités que le Père avait, son omniprésence, son omniscience, sa toute-puissance. On le voit à travers tous les événements qui ont marqué la vie terrestre du Seigneur. Mais lorsque Dieu le Père parle de son Fils en l'appelant « mon Fils bien-aimé », c'est tout simplement parce que par ses paroles, Dieu veut honorer son Fils. Que veut dire Jésus ? Alors avant de répondre à cette question, j'ouvrirai une petite parenthèse. Pour ceux qui parmi nous sont mariés ou fiancés, il est fréquent que nous appelions notre chéri, I ou IE, par ces mots, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Qu'est-ce que c'est qu'une personne bien-aimée ? C'est une personne qui, comme le nom l'indique, est aimée profondément. Profondément pourquoi ? Parce que nous trouvons, quand nous partageons du temps avec elle ou avec lui, notre joie, avec qui nous avons plaisir, plaisir de vivre le quotidien, plaisir de faire des projets. Parce qu'elle est à nos yeux digne d'amour, de confiance, d'estime. Pour vous donner un complément d'information, ceux qui ont l'habitude de faire de leur livre de chevet le soir le livre du Cantique des Cantiques, qui magnifie l'amour, eh bien, dans ce Cantique des Cantiques, le terme « bien-aimé » est cité plus de 30 fois. Alors vous allez me dire « oui, c'est bon pour nous ». Mais quand le Père dit de son Fils « mon bien-aimé », qu'il le dit à haute voix devant ses disciples, qu'est-ce que Jésus veut dire ? Rappelons-nous que nous sommes à quelques jours, quelques heures, de l'arrestation de Jésus, de son jugement, de sa mort. Pour Jésus, cette parole du Père, mon bien-aimé, a été sans nul doute une parole d'encouragement, d'exhortation à tenir ferme. C'est une voix, celle du Père, que Jésus n'a pas entendue souvent à haute et intelligible voix. Jésus était tous les jours en communion avec son Père, dans la prière. Mais à haute et intelligible voix, il ne l'a pas entendu souvent pendant son ministère ici-bas. Ça lui rappelle le temps. Je lis un texte des Proverbes où il était avec son Père tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes de son existence. Proverbe 8, 27 à 31. « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. » Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les êtres humains. Si Jésus est le bien-aimé du Père, c'est non seulement parce qu'il est Dieu et créateur de toutes choses, mais bien plus encore, parce qu'il a satisfait pleinement la volonté du Père. Il a satisfait ses désirs à chaque heure, de chaque journée, de toutes les années qu'il a vécues ici-bas. Il a satisfait tous ses désirs, et en particulier celui vers lequel il se destinait, aller jusqu'à la croix. C'est pour ça qu'il est venu. Accomplir pleinement le plan rédempteur de Dieu. En venant ici-bas, Jésus a donc satisfait pleinement la justice de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la foi en Jésus-Christ. L'amour du Père, c'est ce que Jésus est venu nous révéler. Et c'est ce que Dieu magnifie en disant de Jésus, mon bien-aimé. Accomplir cette volonté jusqu'au bout. Et pourtant, l'heure de Gethsémané approche. Jésus était aussi homme, ne l'oublions pas. Et lorsqu'il se trouve dans ce jardin, relisez ces textes dans l'évangile de Matthieu ou dans un des autres des synoptiques, et vous verrez que Jésus a été tenté de laisser de côté sa mission. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est extraordinaire de voir comment Jésus, encouragé qu'il a été par les paroles du Père, a pu mener à bien la mission pour laquelle il était venu. Quelle grâce pour lui d'entendre ces paroles du Père. C'est mon Fils bien-aimé, celui en qui je prends mon plaisir, celui qui est l'objet de toute mon affection. Et il a entendu cette voix, il a gardé ses paroles sur son cœur jusqu'à l'heure de la croix, jusqu'aux dernières heures de la croix. Rappelons-nous que si le Père et le Fils ont été en communion parfaite et que le Fils a pleinement accompli tout ce pourquoi il était venu, il y a dans ce même évangile de Matthieu, au chapitre 27, deux versets, 45 et 46, qui nous montrent qu'il est un temps où Jésus a été séparé de son Père, où cette communion intime, cette qualification que le Père pouvait dire de lui, mon bien-aimé, n'a plus eu lieu. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est abandonné du Père. Il est sur la croix pour porter mon péché, notre péché. Et vous remarquez que là, il ne s'adresse plus à son Père, mais à son Dieu. Et il le dira encore quand il prononcera ses dernières paroles, « Tout est accompli », manifestant ainsi que ce pourquoi il était venu, ce qui faisait le bonheur de son Père, a été pleinement réalisé. Venons-en à notre deuxième point dans cette parole de Dieu, adressée à Jésus, certes, mais plus encore aux disciples, à Pierre, à Jacques, à Jean, mais beaucoup plus loin encore à chacun de nous. Écoutez-le. Les trois disciples sont un petit peu subjugués par ce qu'ils viennent de vivre. Pourquoi sont-ils invités à écouter? À écouter ce que Jésus a à leur apprendre. Il y a maintenant plus de 3 ans qu'ils vivent en sa présence. Mais là, ils viennent de vivre une expérience aussi glorieuse, aussi belle, qu'on aurait pu penser qu'ils allaient entendre d'autres choses que cet « écoutez-le ». On aurait pu dire « louez-le, bénissez son nom, adorez-le ». Ces paroles n'auraient-elles pas été plus appropriées pour la vie des disciples? J'en suis pas sûr. Ça ne veut pas dire que la louange, l'adoration ne sont pas importantes dans l'exercice de notre piété. Mais pour Dieu, il semble que le plus important qu'il veut faire apprendre aux disciples, c'est ceci. Écoutez le Maître. Écoutez-le. Dieu ne veut pas que les disciples restent dans l'extase, dans l'abattement qui les anime. Vous voyez comment ils sont craintifs. La face contre terre, cet événement les a totalement chamboulés. Et Jésus les invite à se relever et à l'écouter. À l'écouter, pas seulement l'entendre, l'écouter et mettre en pratique tout ce qui leur a été enseigné et ce qu'il va encore leur enseigner. Pour le moment, Jésus est leur ami. Jésus est le Messie pour Pierre. Ils n'ont pas encore réalisé que celui avec lequel ils se trouvent maintenant, celui avec lequel ils vont vivre les quelques heures et quelques jours à venir, va devenir leur sauveur, leur seigneur, leur maître, l'objet qui va centrer toute leur vie sur le monde vers lequel ils vont être envoyés. Écoutez-le. Écoutez-le parce qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Écoutez-le parce qu'il est Dieu, le seul Dieu qui soit révélé aux hommes. Oui, Jean, dans son épître, nous dit ceci à propos de Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y en a point d'autre. Et cette parole de Pierre dans le livre des Actes, écoutez-le parce qu'il est le seul à offrir le salut et la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez-le. Alors ça a été dit pour Pierre, pour Jacques, pour Jean. Mais ça nous est dit à nous aussi. Si cette expérience a été capitale pour les disciples, elle l'est aussi pour nous. Écoutez-le, on a un avantage énorme par rapport aux disciples. Qu'est-ce qu'avaient les disciples pour apprendre un peu plus sur Dieu, sur son plan pour l'humanité? Pas grand-chose. Certes, la loi, les prophètes, tous n'en avaient pas accès, parce que les manuscrits n'étaient pas nombreux. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, il y en a deux sur chaque banc. Vous en avez probablement une, peut-être plusieurs chez vous. C'est à travers elle que Dieu parle. C'est à travers elle qu'il veut se révéler, qu'il veut nous révéler le plan qu'il a pour notre vie, pour l'humanité qui nous entoure, et nous révéler aussi comment témoigner de lui, comme l'a fait notre sœur Joy ce matin. S'il est nécessaire de consacrer du temps pour louer, pour chanter, pour adorer, il est un temps dans notre vie de tous les jours que nous ne devons absolument pas négliger, celui de la lecture de sa parole. C'est à travers elle que Dieu parle. C'est par la méditation quotidienne, régulière, que nous ferons de sa parole que nous apprendrons à connaître Dieu tel qu'il est. Rappelons-nous que le plus important, lorsque nous voyons Jésus s'entretenir avec deux femmes qu'il aimait, Marthe et Marie, et que Marthe s'inquiétait de ce que devait faire sa sœur pour que l'accueil du maître dans sa maison, pour que le repas à servir soit fait dans les meilleures conditions, et que Marie était aux pieds du Seigneur. Et cette parole de Jésus à l'égard de Marie. Ne t'inquiète pas, Marthe. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ce désir d'apprendre, ce désir de connaître, ce désir de s'imprégner de la voix du Maître. Portons-y notre attention quotidienne à cette parole. Et si nous demandons l'aide du Saint-Esprit, il nous aidera à épuiser tous les enseignements qui sont utiles pour notre vie de chaque jour. Mais soyons aussi sur nos gardes. Jésus n'a pas hésité à dire à ses disciples cette parole. Il s'élèvera parmi vous de faux Christ et de faux prophètes qui opéreront de grands prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance, prévenu. Faites attention. Imprégnez-vous de ce que la parole contient. S'il est un texte que j'apprécie énormément dans le livre des Actes, c'est celui où nous est parlé des chrétiens de Bérée. Ils recevaient des enseignements de la part de Paul, peut-être de la part d'autres serviteurs du Seigneur. Il nous est dit qu'ils confrontaient chaque jour dans les Écritures ce qu'ils avaient à l'époque, pour vérifier si ce qu'on leur enseignait était exact. Puisons dans la parole de Dieu l'enseignement de nos vies. Écoutons Jésus. Prenons au sérieux sa parole. Relisons encore un verset dans Jean, au chapitre 5, le verset 24. Jésus a énormément insisté sur cela. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Quelques mots de conclusion et d'enseignement pour nous aujourd'hui. La foi en Jésus-Christ, celle que nous a dit manifester Joyce ce matin, fils de Dieu, l'écoute de sa parole et sa mise en pratique sont capitales pour notre vie d'enfant de Dieu. C'est même à cela que Jésus reconnaîtra les siens, à la manière dont nous aurons professé notre foi, annoncé ce qui, dans nos vies, a été transformé par sa présence, par sa mort et par sa résurrection. Ces brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je vous laisserai pour terminer ces merveilleux versets de Jean 17. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que Dieu fasse de chacune de nos vies, en tant que disciples, des vies de serviteurs. À son écoute, pour manifester aux yeux du monde la gloire qui nous a été révélée dans le texte de ce matin. Amen.